Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce. She's not a robot, Annie, she's a little girl. With little girl emotions which are wildly unpredictable. Charlie? She just has to shove it down and keep it hidden. Our responsibility is getting her ready. Our responsibility is to protect her. Charlie? If they catch her, they're gonna put her in a cage. Charlie? They're gonna run tests on her for the rest of her life. We'll never see her again. Firestarter de Keith Thomas, qui est une adaptation donc, du roman de Charlie de Stephen King. On trouve dans cette adaptation donc, Ryan Kira Armstrong et Zac Efron dans les rôles-titres. Et je vais laisser Nam nous introduire un petit peu le film.
Je viens de découvrir que c'est une adaptation de quelque chose qui s'appelait Charlie. Je dis quelque chose parce que c'est quoi? C'est un livre?
C'est un roman de Stephen King. Ouais.
Ça tombe bien parce que dans le film personne ne s'appelle Charlie. La petite fille s'appelle Vicky.
Elle s'appelle Charlie.
Et bah c'est dit n'importe quoi sur Wikipédia. Bref, du coup la gamine.
T'étais sûr que tu l'as vu?
Bah oui, bah je l'ai même vu ce matin. J'oublie le nom des gens. Et du coup oui, la gamine, petite fille d'une famille apparemment, d'un couple que les autres enfants qualifient d'amish. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Tout ce qui est sûr, c'est que la gamine semble avoir des capacités parapsychiques. Et plus particulièrement, elle peut mettre foutre le feu à des trucs par la pensée. Très vite, on découvre dans le film que le père a un certain pouvoir de persuasion qui vous rappellera peut-être une certaine saga de science-fiction. Et la mère semble aussi avoir quelque chose, mais veut pas s'en servir. Et donc, on découvre que les parents ont... participer à une expérimentation qui leur a donné des super pouvoirs et la fille a hérité et avec des pouvoirs innés et plus puissants et du coup les parents et la fille sont en fuite d'une méga super agence secrète pas gentille qui cherche à attraper les gens qui ont des pouvoirs certainement pour faire des expériences dessus vous connaissez Invif Fiction et compagnie. Voilà, en gros c'est ça l'histoire.
C'est la deuxième version, parce qu'il y avait eu une première adaptation en 1984 par Mark Lester, avec Drew Barrymore qui jouait la petite fille.
D'accord.
Bon bah écoute, j'avais proposé à Justin, je lui avais dit Justin. Avant régulièrement avec Justin, quand on voyait qu'il allait avoir un film d'horreur un petit peu éclaté, qu'il allait sortir, on se disait allez, on s'y colle, jeudi soir, film d'horreur éclaté. Et donc, la semaine dernière, je lui dis « Hey, Firestarter, ça a l'air pas mal éclaté quand même, si on y allait. » Bon, finalement, j'ai pas pu. On est allé voir chacun de notre côté. Mais je dois dire que c'était quand même un peu moins éclaté que ce que je pensais.
Et déjà...
En fait, on se porte la poisse mutuellement, on tombe sur des...
Mais déjà, en plus, est-ce que c'est vraiment un film d'horreur? Parce qu'ils n'utilisent pas vraiment les codes de l'horreur. Au contraire, le film fait plus parler du code du film de super-héros. Et d'ailleurs, à un moment, ils le disent à la fille, tu es une super-héroïne et tout. Bon, après, ce qu'elle fait derrière...
C'est pas très super-héroïque, mais bon. Mais c'est tout à fait justifié par les circonstances, cela dit.
C'est ça.
Après, ceci dit, ils ont reformaté le roman et même le film original pour les standards d'aujourd'hui, puisque le roman, il disait que c'était Stephen King. En plus, c'est un de ses premiers où... je crois que le roman, il date de 1980, donc l'époque où il y allait... Franco. D'ailleurs, il y a des relents de ça dans le bouquin et qu'ils n'arrivent pas trop à bien exploiter dans le film. C'est-à-dire, le roman était sorti en 1980. Et vu que le côté agence gouvernementale, c'était un peu post-Watergate, donc il y avait ce côté un peu parano très présent dans le roman qu'ils n'y réussissent pas trop à... Enfin, c'est assez artificiel la manière dont c'est exploité dans le film. Ce que je trouve intéressant dans le film, c'est le côté... la relation parent, puis le côté l'enfance, le monde de l'enfance, puis la relation avec les parents, mais le côté thriller, je le trouve assez raté, mais en fait, la relation avec les parents, donc le fait que le père ait des pouvoirs aussi, Zac Efron, et puis que... Et la mère aussi, et qu'ils ont un différent, en fait, les deux. Zac Efron préfère qu'elle dissimule, que la petite fille de Charlie dissimule ses pouvoirs pour s'intégrer aux autres, et la mère souhaite que elle, pour pouvoir se défendre justement face à l'adversité, que ce soit aux autres ou c'est cette agence qui les poursuit. Au contraire, elle s'entraîne à gérer, à exploiter ses pouvoirs et du coup aussi ses émotions, et c'est quelque chose, c'est une métaphore qu'on pourrait avoir pour n'importe quel don, quelle aptitude que peut avoir un enfant, et la manière dont les parents peuvent ne pas voir la même chose, peuvent avoir peur pour leur enfant sur cette aptitude, comment cette spécificité, comment elle pourrait réagir face aux autres, cette singularité face aux autres. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien exploité, ce conflit entre les parents, et puis même avec la fille, Charlie, qui ne sait pas gérer ses émotions, vu que l'aspect flamme, c'est dès qu'elle a une tension, qu'il y a de ses camarades qui se moquent d'elle. Voilà, à un moment donné, il y a une poussée, il y a un petit côté Carrie, finalement, reste mm-hmm. Stephen King, il y a une poussée qui vient où il y a l'émanation de ces flammes, et je trouve que ça, c'est assez intéressant, que de tout ce côté-là, l'émotion fonctionne, la petite fille, l'actrice, elle a ce côté à la fois enfantin, mais à la fois aussi cette anxiété, elle dégage vraiment quelque chose là-dessus qui fonctionne bien. Mais après, voilà, le défaut, c'est le côté thriller. Même, j'ai l'impression que le film a été un peu remonté. C'est-à-dire qu'il y a des péripéties, à un moment donné, bon, il y a la partie familiale au début qui fonctionne à peu près. Après, ils sont obligés de s'enfuir parce qu'ils sont retrouvés par le gouvernement. On est censé être dans un road movie, ça dure, je sais pas, 5-10 minutes, alors que bon...
C'est ça, ah oui, devrait, non, mais bah, au final, la route, c'est
un... Ouais, ça devrait durer un peu plus longtemps. Finalement, il y a un climax où elle se retourne contre l'agence. Pareil, on pourrait se dire que ça pourrait... Il y a quelque chose à creuser ou il y a un catharsis à exploiter. Ça dure pas très longtemps. Le côté thriller, en fait, je le trouve moyen. Mais par contre, le côté émotionnel, le côté voilà, rapport aux autres, le côté puberté, enfin pré-puberté qu'elle a 11 ans, je trouve que ce côté-là, l'émotion fonctionne assez. Même la relation avec le père, je trouve Zac Efron... Il est plutôt pas mal, parce que dans le bouquin, le père, c'est le père à l'ancienne, vraiment, alors que là, c'est plus un papa comme on peut en voir aujourd'hui, assez jeune, qui est un peu, qui s'interroge un petit peu, qui se pose plus de questions, peut-être, qui est plus dans le doute, un parent d'aujourd'hui, quoi. Et je trouve que tout ça fonctionne bien, mais le côté tension, thriller, même l'exploitation du pouvoir, les flammes, ça pouvait être plus spectaculaire, même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes de production, des choses comme ça. Parce que le réalisateur, c'est un bon. En plus, son premier film, c'était un film dont on a parlé ici, c'était The Vigil.
Oui.
Donc, je pense qu'il le côté horreur, il est censé savoir le gérer. Donc oui, là,
si c'est
mal fichu comme ça, il y a dû peut-être avoir des... Je crois que le réalisateur, il y avait un premier réalisateur qui devait le faire. Il s'est fait virer, lui est venu dessus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu des réécritures, du remontage. Il y a quelque chose, en tout cas, au niveau de l'aspect purement... thriller, tension, frouche qui marche pas complètement, quoi.
Ouais. Ce que tu disais, c'est juste anecdotique, mais c'est vrai que ça m'a fait le tilt. Et là, j'y repense quand tu reparles de ce côté justement père un petit peu moderne et qui s'interroge. Il y a un détail dans le film, mais que le genre de détail que j'aimerais voir un peu plus souvent. Mais à un moment, il y a un chat qui est tué et ils l'enterrent et ils font une prière pour lui ou elle ou y-elle. Il lui dit ça, tu vois, le père, il dit genre, voilà, j'espère qu'il ira, ou elle, ou y-elle, et juste, on n'en fait pas des tonnes, on n'en reparle jamais, c'est pas du tout le sujet du film, on s'en fout, mais là, en passant, il est là, il a cette déconstruction, on va dire, voilà, qui revient jamais dans le film à aucun moment, mais juste, je sais pas, place le personnage dans, déjà, cet espace-temps qui est le nôtre, dans une conscience... qu'il peut avoir, qui est pas du tout militante ou quoi que ce soit, mais juste voilà, dans le fait que c'est quelqu'un qui est conscient des enjeux, qui est soucieux d'être respectueux, d'être... C'est juste un petit détail qui, je trouve, détermine très bien. Enfin, parce qu'il y a un peu le cliché, finalement, qu'on retrouve dans tellement de films, pour montrer qu'un personnage, il est gentil, faut qu'il s'occupe d'un animal. Et je trouvais que c'était une sorte d'équivalent syntaxique de ça. Tu vois, genre, pour montrer qu'un personnage, il est gentil, il se pose la question des pronoms. Enfin, c'est complètement con, mais je me suis dit, c'est un petit peu voilà, ce type d'équivalent à cet autre trope scénaristique qui est assez usé. Et oui, enfin, c'était, comme tu dis, s'il y a une relation qui est intéressante entre le père et la fille, et une relation qui... Enfin, moi, la relation qui m'a le plus intéressée dans le film, et c'est dommage parce que je la trouve un peu trop expédiée, c'est que ils ont à leur trousse en fait une sorte de tueur à gages, on comprend. Enfin bon, qui là doit les prendre vivants, enfin doit prendre en tout cas la gamine vivante, mais on comprend que c'est quelqu'un qui, comme eux, a subi des expériences, développé des pouvoirs, et on sait pas, enfin, il fait usage de ses pouvoirs une fois au début du film. Voilà, on comprend qu'il peut voir des choses, etc. Mais en fait, on n'en reparle plus du tout dans le film, on sait pas exactement comment fonctionne son truc, enfin, c'est un peu juste posé là. pour, j'ai l'impression, plus justifier le rapport qu'il va avoir par rapport à eux, d'être dans une identification, d'être lui-même dans un arc de rédemption, puisque d'abord il les chasse, et puis il va se rendre compte que, enfin voilà quoi, il est comme eux, et il est censé être de leur côté.
Et il ne vaut pas plus pour le gouvernement que finalement
ouais. Le film. Mais du coup, c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu voir un peu plus creusé. Et
en plus, l'acteur est charismatique en plus.
Complètement. Ouais. Complètement. Et c'est un personnage qui, à mon avis, était peut-être le plus intéressant du film dans ce qu'il avait à raconter. Et c'est pas totalement absent, hein, mais. Et c'est pas. Enfin, quand tu le vois à la fin un petit peu changer de camp, ça paraît pas absurde. Mais j'aurais aimé en voir un petit peu plus
ça,
de ce côté.
Ça sent les scènes coupées. Hein. C'est ça. Oui, le film, il dure qu'une heure et demie. Mm-hmm. Bon.
Parce que même quand tu disais par rapport au côté thriller qui marchait pas, c'est vrai que lui, on aurait pu l'avoir pendant une bonne heure de film qui les poursuit, qui commet des exactions et tout. Parce qu'il y a quand même des trucs. Mm-hmm. Mais c'est vrai que malheureusement, dès la première scène où on le voit, bon, il est un peu dangereux, mais il se fait déjà défoncer par la gamine. à partir de là, c'est vrai que tu te dis, c'est. Il est bien sympa, votre grand boogeyman, mais bon. on l'a déjà vu perdre, quoi.
Bon, après, on voit, il a quand même tué la mère, donc c'est quand même, ça pose oui. Le personnage un peu impitoyable.
Mais tu vois, le truc, c'est que dans le. C'est un peu bête, parce que au niveau du rapport de puissance, dès le début, on nous dit la fille, elle est au-dessus de tout le monde, de toute façon.
c'est un croisement de. Surtout, en plus, on est prévenu, parce qu'elle lui dit. Parce qu'apparemment, leur pouvoir, il faut qu'ils regardent. Qui regarde la personne pour pouvoir appliquer le pouvoir. Et puis elle le réussit à le faire sans le voir forcément, donc il comprend aussi.
Et puis ça, c'est pareil, il y a un côté un peu messianique avec la gamine, mais qui passe très vite dessus.
Ouais.
Avec la mère qui prévient justement le boogeyman, il fait quand tu la verras, tu comprendras.
Ouais.
Lui qui reprend ça ouais. Avec sa patronne du gouvernement.
Mais comme ça a duré 2 secondes.
Voilà, mais oui, c'est ça, c'est un truc qui passe très rapidement et on n'y revient plus dessus. Ouais. C'est un peu. Il manque des trucs.
Non, mais je suis quasiment sûr, parce qu'en plus le film il dure vraiment une heure et demie. Quoi. Donc,
est-ce que c'est nous qui nous sommes trop habitués à voir des films de 2h15
non, mais,
regarder des mini-séries de 8 épisodes d'une heure et à du coup avoir que des personnages
non, mais après, pas forcément, parce que là c'est avec 15 minutes de plus, tu développes un peu. Il manque pas une demi-heure. Là, mais...
Ou alors c'est peut-être aussi le film qui a mis trop de choses dedans et pas assez développé, et du coup il manque quelque chose.
Pourtant, il y a des bonnes idées pour introduire, par exemple, le générique, tout le côté expérience.
Ouais.
Ça se passe pendant le générique, voilà. Comme ça, on ne revient plus dessus, on a compris qu'ils ont été victimes des... Et ça, c'est bien fait. Et puis, il y a d'autres choses où...
Ça m'a un peu fait penser au générique de Malignante, non ? Il n'y avait pas un truc un peu dans ce genre
Oui, oui.
Un petit peu... Et puis, l'expérience, ça avait l'air cool. Mais c'est vrai que ça c'est un peu le truc, genre, il t'expédie ça et tout. Tu fais, c'est con, j'aurais bien en voir plus. Il y a un mec qui s'est arraché les yeux et tout.
C'est vrai. Oui, parce que, en fait, c'est vrai, parce qu'au début, t'as l'impression que ça va être vachement plus horreur, justement.
C'est ça.
Parce que t'as cette intro, c'est un peu trouble. Enfin, ce type qui s'arrache les yeux, comme tu dis.
Et puis après, tu pars en petite vie de famille, avant de partir sur un thriller. Et puis, comme tu dis, un road movie qui s'arrête très vite, parce que la route.
Mais j'ai l'impression que sur tous les aspects, on est en train de se dire, il en faudrait plus. Il faudrait plus de psychologie, plus de road movie, plus de péripéties. Et oui, au final, qu'est-ce qu'il y a dans le film ? Enfin, je me pose la question. Parce que...
après, c'est une question de montage. Que des fois, même avec 10 minutes de plus, en creusant, en rallongeant certaines scènes, ou avec y a pas forcément besoin de rajouter une demi-heure de scène coupée. Mais des fois, sur des petites subtilités, des petites choses. Alors que là, ça sent, honnêtement, vu la production, comme je disais, il y a un premier réalisateur qui s'est fait virer, il l'a embauché. Donc ça sent que... Il y a eu du remontage sauvage. Parce que d'habitude, en plus, Jason Blum, enfin, c'est une production Blumhouse, il arrive à bien remettre au goût du jour des fois des thèmes un peu rechassés du fantastique, comme avec l'homme invisible. Alors, j'étais pas complètement convaincu de l'homme invisible, mais il y avait au moins une moitié de film où il avait complètement réussi à renouveler la manière dont on percevait l'homme invisible. Et là, Stephen King, on se dit, les tropes un peu de Stephen King, il y a moyen de. Les revisiter un peu, et puis je sais pas, ça fonctionne pas complètement.
On peut juste rajouter, je pense que John Carpenter a participé à la bande-son du film, si vous avez vu ça.
Oui.
Alors c'est marrant que je dis ça, parce que la version de 84, donc qui est réalisée par Mark Lester, à l'origine, c'était John Carpenter qui était sur le projet, qui devait la réaliser.
D'accord.
Et ça devait être un gros budget et tout, et ça s'est pas fait, du coup c'est un autre réalisateur qui l'a fait, donc du coup il se rattrape en faisant la musique, qui est pas, c'est pas ce qu'il a fait de mieux non plus, c'est assez passe-partout.
Bah non, après c'est une traque à la John Carpenter. Hein.
Ouais, mais bon, là c'est pilotage automatique, quoi.
Bon, eh bien, merci beaucoup pour vos retours donc sur, sur Fire Taster, adaptation de Charlie. Merci beaucoup.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.